Chapitre 2, pour commencer. À la fin du verset 6. Et les jours où Marie devait accoucher s'accomplirent. Verset 8. Et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui dans la cité de David vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui l'ouïrent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes les choses par-devers elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues selon qu'il leur en avait été parlé. Comme tout évangile, Luc développe ici des thématiques très très particulières qui sont les siennes et qui sont déjà concentrées dans ce début. Alors très rapidement, il y a bien sûr ce que nous avons évoqué ce matin, et tout le passage est traversé par ce contraste qu'il y a entre d'un côté ce qui relève du céleste, du très haut. L'expression apparaît plusieurs fois au début de cet évangile de Luc, donc ce qui est l'origine de l'action de Dieu, hein, tout ce salut descend d'en haut, il vient d'en haut. Et puis, par contraste donc aussi, tout ce qui pourrait relever de ce qu'on pourrait appeler du très bas. Donc la naissance du Fils de Dieu dans cette crèche, par exemple, hein, à l'écart, hein, puisque personne n'a voulu l'accueillir. Il y a d'autres contrastes, bien sûr. Entre le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, et puis cet enfant ici. L'enfant, littéralement, c'est celui qui n'a pas la parole, qui n'est pas encore capable de parler. C'est assez paradoxal pour celui qui est justement la parole de Dieu, hein, qui dans ce moment est bien sûr dans un état de dépendance, de faiblesse absolument totale. Dieu se fait homme, hein, et prend ce chemin ici de l'extrême faiblesse du très bas. Cette considération qui est portée par la louange des anges, par exemple, hein, qui reconnaissent celui qui est né pour ce qu'il est, bien sûr, et qui l'associe au plan de Dieu, et puis cette espèce de mépris, d'indifférence totale des hommes par rapport à cette arrivée-là, même au sein du peuple de Dieu, même dans Israël. Il y a aussi ce temps qui est accompli, et c'est aujourd'hui. Donc il y a ici deux durées qui se rencontrent. Bien sûr, celle qui relève, je dirais, de la promesse, de la manière dont Dieu l'annonce, l'affirme et l'accomplit. Et puis ce présent dans lequel l'Évangile nous fait entrer aujourd'hui. Voilà, tout ce que contient la parole de Dieu a une actualisation, une réalité, qui sont celles qui ne peuvent s'affirmer que par la présence de Jésus, par sa présence dans le monde. On sait bien sûr que ce mot aujourd'hui est un mot typique de l'évangile de Luc. Il revient très fréquemment. Il revient sur la croix. Aujourd'hui, quand il s'adresse au brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dans l'évangile dans le même évangile, chapitre 4, aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Première prise de parole publique de Jésus, aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas, bien sûr, simplement le présent, mais c'est ce temps qui a été annoncé. Qui a été annoncé tant de fois, et qui trouve dans cet instant-là, dans la présence de Jésus, parmi les hommes, sa réalisation. Ça y est, le temps est accompli. Le temps n'est pas inachevé, mais le temps est accompli. Le temps accompli, c'est celui de la promesse. Le temps qui n'est pas achevé, c'est celui encore où nous avons nous-mêmes à attendre la réalisation terminale ou la réalisation complète du plan de Dieu. Ensuite aussi, peut-être, toujours un peu dans ces contrastes, et là on voit que ça déborde évidemment ce seul passage, cette question de la louange. N'oublions pas que l'évangile de Luc commence avec donc Zacharie, le père de Jean le Baptiseur, qui est dans le temple, qui a été désigné pour cette liturgie, pour accomplir le culte, un moment de culte, cette liturgie. Il y a un ange qui lui parle et Zacharie devient muet. Et le peuple est dehors, c'est ce qu'il dit, le peuple est dehors. Il y a quelque chose ici, on sait bien la place qu'occupe le temple dans toute l'économie de l'Alliance. C'est bien sûr le centre, le point de rencontre entre Dieu et son peuple. Et bien voilà que cette cérémonie, ce qui aurait dû avoir lieu, ne se produit pas et que Zacharie devient muet. Et que cet acte liturgique est comme arrêté. Il y a quelque chose qui ne peut pas continuer. C'est tout simplement aussi, je pense, une image de ce système religieux, juif, qui est arrivé à une forme d'épuisement, d'essoufflement. La louange a quelque chose ici de vain en soi. Mais ce n'est pas la fin de toute chose. Et on sait bien que lorsque Zacharie retrouve la parole, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose que Marie. Marie, verset 46, « Mon âme magnifie le Seigneur ». Zacharie prend la parole, verset 67, « Il fut rempli de l'Esprit Saint et il se met à louer ». Ce qui déclenche cette louange, c'est aussi quelque chose qui déclenche, bien sûr, une louange nouvelle, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si l'ancien système ici était mis de côté pour être remplacé par quelque chose de plus grand, de plus beau. Je lis juste aussi la fin de l'évangile de Luc pour montrer à quel point les choses se tiennent de ce point de vue-là. Le tout dernier verset de Luc, verset 53, et c'est donc les disciples, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà la finalité de l'évangile, voilà ce que cette bonne nouvelle a provoqué. Et le peuple n'est plus dehors, en quelque sorte, mais les disciples sont bien dans le temple. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui a complètement changé dans la relation de Dieu avec les siens. Puis aussi, peut-être, cette expression qui revient souvent, elle revient trois fois dans le passage. Si elle ne revenait pas trois fois, peut-être qu'on n'y accorderait pas la même importance, mais c'est évident qu'il y a quelque chose ici qui attire volontairement notre attention. Coucher dans une crèche, il est couché dans une crèche. La traduction la plus courante, c'est coucher dans une mangeoire. La crèche, c'est le lieu, l'étable. La mangeoire, c'est le contenant. Et c'est plutôt de ça qu'il est question. Jésus est couché dans une mangeoire. Ça serait peut-être un simple détail, un narratif, si on retrouvait justement cette même idée à la fin de l'Évangile. Hein, il y a très souvent des correspondances très très belles entre le début et la fin. Et il nous est dit plus loin, justement, c'est au chapitre 23, donc Jésus est descendu de la croix, l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc. Hein, donc Jésus au début dans une mangeoire, et puis à la fin on le couche aussi dans un sépulcre, dans un tombeau. L'expression est annoncée ou répétée trois fois ici, comme si celui qui était allongé ici, couché, était aussi celui qui serait mis debout. Hein? Et on sait bien que dans les évangiles, cette expression de mettre debout, se lever, est une image aussi de la résurrection. Hein? Donc, si vous voulez, ce que les anges célèbrent ici, quand ils glorifient, le Seigneur, c'est pas simplement la présence, hein, de Jésus-Christ, son incarnation, c'est pas simplement ce mystère-là, mais c'est aussi justement la une sorte de globalité, hein, quelque chose qui présente le Seigneur comme l'accomplissement d'un tout. Hein, les temps qui s'accomplissent, c'est pas simplement celui de la présence de Jésus, c'est bien sûr cette voie de salut qui passe par la naissance de Jésus, qui passe par la crucifixion de Jésus, par la résurrection de Jésus. Tout ça est en quelque sorte finement, habilement concentré dans ce passage. C'est de tout ça qu'il est question, de tout ça. Alors, on continue un autre point peut-être. Ce qui est très beau, vous voyez qu'il y a un certain équilibre dans ce passage. On a le début qui va en gros jusqu'au verset 15 où on nous raconte cette naissance et ce cœur céleste et comment les bergers sont avertis. Et puis ensuite, après, vous avez la réaction. Chose différente. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'annonce, l'action des anges, l'action de Dieu en quelque sorte, qui dit des choses aux hommes, et puis ensuite vous avez dans un deuxième temps la manière dont les hommes reçoivent ces choses-là. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr, surtout dans cet évangile. Surtout dans cet évangile. Hein, où là, la parole reconnue comme origine, dans son origine divine, est suivie aussi de l'impact qu'elle a sur les hommes qui la reçoivent. L'un des premiers impacts, verset 16, ils allèrent en hâte. Ils allèrent en hâte. Marie aussi se dépêche. Chapitre 1er, verset 39. Marie se levant en ces jours-là, s'en alla en hâte au pays des montagnes. On la retrouve à d'autres endroits. On l'a aussi, bien sûr, à la résurrection. Résurrection, on a l'impression que tout le monde se met à courir, un petit peu dans tous les sens. Les disciples qui se précipitent pour aller jusqu'au tombeau. Hein, et puis ensuite qui retournent pour que cette bonne nouvelle, le tombeau est vide, cette bonne nouvelle soit diffusée. Cette hâte. Il y a quelque chose de très beau, de très simple en soi, mais en même temps, je trouve de très fort ici que nous dit la parole. C'est-à-dire que cette parole, quand elle est reçue, elle provoque aussi une réaction. Tous ces hommes, une fois qu'ils ont entendu ces choses, on verra quoi, mais une fois qu'ils ont entendu l'ange, les anges qui leur parlaient, bien sûr, ils retournent dans la réalité. Hein? Bien sûr, ils retournent dans le réel, dans la vraie vie. Mais ils n'y retournent pas, si vous voulez, comme ils y étaient avant. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui les a profondément atteints, qui fait qu'ils ne se comportent plus de la même manière. Et dans ce sens-là, cette hâte, c'est tout simplement l'idée, eh bien, d'un élan vital, de quelque chose qui les a vivifiés, hein? Et qui font que ils ont envie, si vous voulez, ils sont portés par ce désir de dire aux autres, voilà, ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. C'est la même chose pour la résurrection. Et là, bien sûr, les évangiles mettent tout simplement en avant, eh ben, ces deux événements fondateurs, hein, pour notre foi. Hein. Nous croyons Nous croyons que Jésus, c'est bien le Fils de Dieu incarné, que c'est Dieu fait homme. Nous croyons aussi que Dieu a ressuscité ce Jésus qui a été mis au tombeau. C'est une manière de relier, si vous voulez, ce fondement dans l'œuvre, si on peut les isoler, ces fondements dans l'œuvre de Dieu avec ce qui est notre part vivante, notre foi. Notre foi s'appuie sur ça. Voilà. Et elle est manière vitale, reliée à ces fondements. Ensuite, alors ils divulguèrent la parole, c'est un petit peu ce que j'essaie de dire, voilà. Cette parole qui n'est pas forcément gardée pour soi, mais qui va de proche en proche. C'est dit ailleurs. Verset 65 du chapitre 1er, par exemple, « Tous leurs voisins furent saisis de crainte », donc tous leurs voisins, c'est ceux qui sont à côté, on est bien d'accord, il y a quelque chose qui fait tache d'huile qui se répand, « et on s'entretenait de toutes ces choses ». Donc voilà, quelque chose qui relie les gens. Et cette bonne nouvelle, voilà, qui gagne, qui se répand à partir d'un centre. Ce centre ici, au début, c'est bien sûr celui de cette parole qui se donne à connaître, par le biais de l'ange, par le biais des anges, etc. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui mérite d'être peut-être souligné, la parole qui leur avait été dite. Parole qui leur avait été dite. Pourquoi il y a cette répétition? C'est pas nécessaire. Une parole, c'est forcément dit. La parole qui a été dite. Et on reprend après. Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur avait été parlé. Il y a dans ces deux versets, ici, trois références, à mon sens appuyées, sur le fait qu'il y a une parole, et une parole qui a été dite, et que c'est ça qui est à l'origine de tout. Souvenez au début de l'épître de Jean, la première épître de Jean, il y a ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu et ensuite vu. Mais d'abord, il y a entendu. C'est important. C'est important parce que c'est comme si cette annonce ici plaçait les croyants dans une situation à nouveau de recevoir la parole de Dieu. Ils sont témoins de beaucoup de choses. Ils voient des choses, ils entendent des choses. Mais avant toute chose, je dirais, ils sont en situation d'entendre la parole de Dieu. C'est ça, et ça. C'est comme s'il y avait un nouvel état de réception. Comme si cette parole de Dieu, pensez au début de l'évangile de Jean, était à nouveau accessible. Et que c'est cette parole qui frayait un chemin d'accès jusqu'à Dieu. C'est ça qui est au départ de tout. Cette parole qui est entendue, cette parole qui est dite. Ensuite, il y a ces beaux versets aussi. Marie gardait toutes ces choses par-devers elle, les repassant dans son cœur. Alors ça, c'est une parole qui est, assez représentative des évangiles et de la bonne nouvelle. Parole que l'on retrouve ou expression que l'on retrouve déclinée à plusieurs endroits. Par exemple, sa mère conservait, c'est au chapitre 2, sa mère conservait ses paroles dans son cœur. C'est-à-dire que Jésus venait de parler, et il est dit, elle conservait toutes ses paroles dans son cœur. Ou encore, dans le verset précédent, 65, précédent parce que je l'ai lu, 65, on s'entretenait de toutes ces choses par tout le pays des montagnes de la Judée, et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur. Et ailleurs encore. Ailleurs encore. Voilà, il y a cette idée qui est répétée. Là, on peut s'arrêter un petit peu parce que c'est un petit peu comme coucher dans la mangeoire, c'est trop présent pour qu'on passe dessus avec légèreté. Il y a bien sûr comme notre attention qui est alertée par cette répétition. Alors, il y a l'idée de toutes ces choses. Ça revient à chaque fois, toutes ces choses. C'est quoi toutes ces choses à ce moment-là, au tout début de l'Évangile ? Entre nous, je crois que ça ne peut pas être grand-chose. C'est pas, on voit dans la suite des évangiles, il est quand même dit très souvent que les disciples ne comprennent pas, ne comprennent rien, ils ne tirent pas de leçons de ce qu'ils ont entendu, etc. Donc toutes ces choses, ce n'est pas la quantité du contenu ici qui est en jeu. C'est plutôt, je dirais, la conséquence de cet état de réception tout à fait nouveau, du fait qu'ils soient entièrement tournés vers la parole. Et que cette parole qui leur parle, eh bien, ils ont comme le désir de ne rien en perdre. Voilà. Il y a des choses qui ont été dites, mais toutes ces choses, je les retiens. Je les garde. Hein, dans cette idée de garder, avec la volonté, le désir de ne rien perdre. Hein, pour que ces choses-là soient maintenues, telles qu'elles ont été dites, telles qu'elles ont été entendues. Je pense qu'il y a aussi, c'est peut-être juste une petite digression, encore que je ne suis pas sûr que pour moi c'est un rapport, mais vous avez au chapitre 3, un passage d'Ésaïe qui est cité, qui est rappelé, c'est au verset 4, comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera baissée, et un peu plus loin, et toute chair verra le salut de Dieu. Là aussi, il y a ce tout qui est répété, hein, 4 fois. C'est-à-dire que là, l'idée aussi, c'est que, eh bien, à partir du moment où Dieu a choisi d'envoyer son messager, il n'y a aucun obstacle qui puisse s'opposer à ce dessein. Et que ce projet va s'accomplir, parce que c'est la volonté de Dieu, et parce qu'il n'y a aucune volonté humaine, quelle qu'elle soit, qui puisse s'opposer à ce désir de salut, à cette voie de salut. Eh bien, tout ce que Dieu a décidé, l'homme est capable de le recevoir. Tout ce que Dieu dit, l'homme est capable de le recevoir, ou de l'accueillir. Peut-être il ne nous est pas dit qu'ils ont bien compris à ce moment-là le sens profond de ce qu'il dit. Quand Marie elle va chercher son fils, elle le trouve dans le temple en train d'enseigner. Il a 12 ans. Jésus dit « Il me faut être aux affaires de mon père ». Est-ce que Marie perçoit toute la profondeur de ce qui a été dit ? Peut-être pas, mais elle conserve les choses. Elle conserve les choses parce que ces choses-là, en leur temps, plus tard peut-être, eh bien, trouveront un sens en prolongement. C'est un peu faire acte de mémoire, comme si on conservait ça dans sa mémoire. Je mets ça en relation avec un autre passage, verset 66. Verset 66, il est donc dit, on s'entretenait de toutes ces choses, et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, que sera donc cet enfant ? Point d'interrogation. Que sera donc cet enfant ? On a annoncé la naissance. Et ceux qui ont entendu ont certainement perçu que là, il y a quelque chose, puisque c'est Marie qui a donné la nouvelle, quelque chose du plan de Dieu qui s'accomplit. Et s'interroge. Que sera donc cet enfant ? C'est intéressant parce que ils se mettent dans une position qui est une position de foi. Ils se disent, si Dieu agit, c'est qu'il y aura une suite. C'est que quelque chose va advenir. Ce qui est annoncé là, ça fait partie là de ce que Dieu a préparé. Et ça ne va pas s'arrêter là. Que sera donc cet enfant ? Cet enfant va certainement grandir. Est-ce que c'est l'accomplissement du temps annoncé par Dieu ? Si vous voulez, cette question met les croyants en situation, je dirais presque de vigilance, où ils vont voir si la suite eh bien, ne va pas illustrer, mettre en œuvre, être la réalisation totale du plan de Dieu. Et ça, je crois que c'est une attitude typique de la foi. Hein, dans le sens où, d'ailleurs, l'expression qui suit, la main du Seigneur était avec lui. La main du Seigneur était avec lui. Ils sentent bien que le Seigneur était avec lui. Ils sentent bien que le Dieu qui agit ici, c'est Emmanuel. Hein, Dieu avec nous. Et que si Dieu agit avec nous, eh bien, dans cette histoire qui vient de commencer, il y a quelque chose aussi qui va nous concerner. C'est une attitude de foi. Parce que c'est une attitude qui regarde vers l'avant et qui voit dans cet avant, qui attend dans cet avant, dans cet avenir, si vous voulez, eh bien, les signes qui vont confirmer que Dieu agit pour nous et que Dieu est avec nous. Ça, c'est bon. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, ça. Ça apparaît à d'autres moments dans la parole, mais on voit bien que voilà, toute cette annonce place les disciples ici dans une autre attitude. Ensuite, ces paroles sont gardées dans le cœur, Elles sont écoutées avec le cœur, pas écoutées avec l'intelligence, pas seulement, ou pas écoutées avec les oreilles, pas seulement, mais écoutées avec le cœur. Ce cœur, il revient dans chacune des expressions qui a été lue. Est-ce que ce n'est pas tout simplement là aussi la réalisation de ce qui avait été annoncé par les prophètes? Les prophètes constatent que l'alliance du peuple avec Dieu, eh bien le peuple en est sorti. Et que fait Dieu? Au lieu de renoncer, eh bien, il dit à son peuple, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Un cœur qui soit capable d'aimer. Et bien, ce cœur ici, qui reçoit la parole, de Dieu, est-ce que ce n'est pas justement comme le reflet de la nouvelle création, Dieu qui crée des hommes qui soient capables de réentendre la parole, de la recevoir, et qui vont vivre nouvellement dans son alliance. Toutes les choses, elle les repassait dans son cœur. Voilà. Il y en a un aussi, l'expression revient, je crois que c'est à propos de Jacob. Oui, c'est au chapitre 37. Chapitre 37, verset 11. Et ses frères, alors ce sont les frères de Joseph, furent jaloux de Joseph. Mais son père, Jacob, gardait cette parole. Alors le contexte, bien sûr, est intéressant. Juste si je résume le paragraphe qui précède, Jacob vient donc de faire ses songes, enfin de raconter ses songes. Ses songes par lesquels, eh bien, il semble annoncer qu'un jour, ses frères se prosterneront devant lui. Alors, ses frères ne supportent pas ce songe, ils sont jaloux de lui, et puis c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il y a une tension très forte entre eux qui s'installe. Jacob, qui a entendu ça aussi, eh bien, lui ne dit rien. Et à un moment, il ne dit rien. Et il gardait cette parole. C'est-à-dire que ce qu'il a entendu ici, il le perçoit évidemment différemment de ses frères. Cette parole qu'il garde, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il met en relation avec la promesse dont il a été lui-même l'objet? Cette promesse qui veut que de Jacob à Joseph, eh bien, il y a quelque chose que Dieu a annoncé qui va se prolonger. C'est qu'il met ça en relation aussi avec le passé. Cette parole devient vivante pour lui, elle a du sens pour lui, parce que, justement, il s'appuie sur quelque chose que Dieu avait pu dire avant. Ça me fait penser à un autre passage aussi. Vous voyez, juste pour terminer, en Marc 14, au verset 9. Alors, on est juste après l'épisode où voilà, cette femme vient répandre un vase d'albâtre sur les pieds ou la tête de Jésus, briser le vase, et au verset 9, en conclusion, il est dit « En quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. » En mémoire d'elle. Donc voilà quelque chose que l'on est invité à garder en mémoire, à conserver dans son cœur. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi cet épisode-là? Eh bien parce que cette femme ici a manifesté quelque chose qui est, bien sûr, qu'on peut prendre comme exemple. Et que ce qu'elle a fait, ça garde toujours une actualité pour nous. C'est là qu'on peut faire la différence entre le souvenir et la mémoire. Le souvenir, c'est juste un événement qui appartient au passé. Faire mémoire, c'est autre chose. C'est qu'on tire quelque chose du passé et on le rend vivant. Hein, de telle manière que ça parle et que ça a un effet pour nous. Que ça continue à nous édifier, en quelque sorte. En quoi est-ce que ce geste a été édifiant ? Eh bien, on voit ici une femme qui sacrifie beaucoup, qui renonce à beaucoup d'elle-même pour le nom de Jésus et qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. C'est un acte de louange, d'adoration. Donc, elle met sa propre vie de côté, son propre intérêt pour, d'une certaine manière, célébrer la personne de Jésus-Christ. Ça appartient à des, si vous voulez, ça manifeste des vertus qui sont très hautes ici, ou des motifs qui sont très hauts, qui sont très nobles du point de vue chrétien. Ça s'oppose, bien sûr, alors l'expression n'est pas de moi, mais à des valeurs basses. Cette femme a des valeurs hautes, le sacrifice, le renoncement. Les valeurs basses, ben, c'est tout ce qui tourne autour de nous-mêmes. C'est tout ce que nous pouvons faire pour satisfaire notre propre ego. Tout ce que l'on construit dans notre apparence, voilà, pour donner un semblant de consistance, que ce soit par le biais de l'argent, que ce soit par le biais de notre réputation, etc. etc. Il y a les valeurs hautes, hein, qui sont celles qui ont connu des exemples dans la vie des croyants. Ça mérite d'être gardé en mémoire, de faire mémoire. Faire mémoire, on l'a aussi, bien sûr, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à travers la scène. Hein, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas simplement un souvenir. Hein, mais c'est bien montrer, par le geste que nous accomplissons, que ce qui a été fait a toujours une valeur éternelle. Hein, non seulement par la notion de sacrifice, mais que ça a une valeur aussi pour nous. Et que c'est quelque chose qui a du prix pour notre foi. Voilà. Conserver toutes ces choses dans son cœur. Hein, dans son cœur. C'est ce début d'évangile, on voit bien que voilà, Dieu se révèle. Ces gens ne sont pas simplement en face d'histoires à raconter, d'histoires qu'on leur raconte. On est bien d'accord. S'ils gardent ces choses dans leur cœur, c'est bien parce qu'ils en sentent toute la portée, toute la valeur. Hein. Dans ces passages, de quoi est-il question? Ben, il est question de la révélation du Dieu, du mystère de son incarnation. Il est question de choses qui ne peuvent pas être simplement défendues par la raison ou expliquées par la raison, mais qui relèvent bien de la foi. Ce sont ces choses-là. Et toutes ces choses-là qui ont été saisies et que ces hommes et ces femmes de foi ont désiré garder dans leur cœur.
Dans ce même chapitre 2 de Luc, je voudrais lire un petit peu plus loin ce qui nous est dit concernant Siméon et Anne. Je vais lire à partir du verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux, et il attendait la constellation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira, et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. » Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour. Celle-ci, survenant à ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Chez ces deux personnes, on a deux représentants de tout un groupe discret, inconnu peut-être de beaucoup, mais pourtant bien présent. Ceux dont il nous est dit, le dernier verset qu'on a lu, qui attendait la délivrance. De ce qui est dit de Siméon, il attendait la consolation d'Israël. Bien sûr, le chapitre 1er nous montre Zacharie et Élisabeth, nous montre Marie, Matthieu nous présente Joseph, comme étant de ce même groupe. Qu'est-ce qui les animait? Cette foi qui avait pris à la lettre les promesses de Dieu quant à une délivrance à venir, quant à ce Messie choisi de Dieu qui serait l'instrument, à la fois l'instrument de cette délivrance et le centre de ce qui suivrait cette délivrance. Et chez Siméon, c'est particulièrement frappant comment les premiers versets nous le montrent dans le secret. Il attendait, il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Il était connu d'autres, il connaissait d'autres qui avaient la même attente que lui, mais il était un parmi d'autres. Mais il avait un secret. L'Esprit Saint était sur lui et il avait été averti de quelque chose de particulier. Lui avait eu un message de Dieu pour lui personnellement, qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Il avait été averti que ce qu'ils attendaient, que tout ce petit résidu attendrait, allait s'accomplir de son vivant. Et il vivait dans cette attente. Et il nous est dit, verset 27, « Il vint par l'Esprit dans le temple. » Conduit par l'Esprit, il vient au moment où Marie, où Joseph, Marie viennent apporter l'enfant Jésus. On retrouve la même chose, quelque chose de similaire qui nous est dit au verset 38, celle-ci survenant en ce même moment. Conduit. Dieu conduisant ceux qui s'attendaient à lui. Et les conduisant, bien sûr, en réponse à ce qui était leur attente, mais au-delà de ça, les utilisant comme instrument pour plus loin, pour d'autres et pour plus loin, et comme instrument qu'on peut dire qui ont, d'une manière très différente, d'une manière moins visible universellement, un rôle d'annonciateur, comme Jean le Baptiseur. Jean le Baptiseur a eu ce rôle. Celui qui annonce, la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Eux ont préparé, 30 ans plus tôt, les esprits, il est là. Il est là. Encore caché, il est là. Et alors on peut relever ce fait, il vient là, il voit Joseph, Marie, l'enfant Jésus, il le prend dans ses bras, Et puis, il ne nous est pas dit qu'il parle à Marie, à Joseph, là. Non, il nous est dit, il bénit Dieu et dit. Les premières paroles qu'il dit là s'adressent à Dieu. C'est cette reconnaissance de louange, de bénédiction qui monte à Dieu pour l'accomplissement de ce qui lui avait été promis et qui va bien plus loin encore. Il parle en tant que prophète parce que cette bénédiction va au-delà. Il dit, voilà, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut. Ce que tu m'as promis s'accomplit, je le vois maintenant. Comme tu me l'as promis, je vois celui qui est le salut, ton salut. Et puis alors après la suite, ça va au-delà. C'est des choses qu'il s'adresse toujours à Dieu, mais cette parole est publique. À la fin, il nous est dit, son père, sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Je reviendrai là-dessus après. Qu'est-ce qu'il en dit ? Ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Quelque chose de très large, la pensée de Dieu en Christ révélée, on peut dire dans son entier, tous les peuples, les nations, Israël. L'ordre est d'ailleurs mis dans le sens inverse de ce qu'on attendrait de la part d'un Israélite. Et justement, alors, c'est là que je veux venir avec ce que son père et sa mère s'étonnaient des choses qui lui étaient dites. Si on retourne en arrière sur la prière, la louange de Marie ou la louange de Zacharie, l'un comme l'autre s'adresse à Dieu dans la reconnaissance, dans une parfaite reconnaissance, mais avec un horizon qui est limité à Israël. Siméon va au-delà. Siméon est entré plus loin dans la pensée de Dieu, celui qui est là, ce salut, n'est pas que pour Israël. Il est pour Israël, oui, la gloire de ton peuple Israël, mais il est en même temps cette lumière pour la révélation des nations, et il est en même temps préparé devant la face de tous les peuples. Le Seigneur, venant là, Siméon le distingue comme étant pour tous les hommes. Bien sûr, c'est une parole étrange. En Israël, dans le temple, Joseph et Marie étaient venus accomplir les choses très prescrites par la loi. Ils étaient pieux, sans équivoque. Ils croyaient sans équivoque. Mais leur compréhension de ce en quoi ils étaient acteurs n'allait pas encore plus loin que ce qui concernait Israël. Et Siméon, dans cette louange qui s'adresse à Dieu, et l'instrument pour leur ouvrir les yeux au-delà. Bien sûr, après, on a cette parole que Siméon a pour Marie tout particulièrement. Ce qu'elle verrait de ses yeux d'incompréhensible, dans un premier temps. Qui la toucherait, une épée transpercera ta propre âme. Oui, Marie a dû passer, par ce chemin douloureux de voir son fils sur la croix. Mais elle a vu au-delà aussi la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il fallait, Luc aussi utilise cette expression, il fallait que le Christ souffrît ces choses. C'était le chemin obligé pour qu'il soit cette lumière pour les nations, pour qu'Israël, après encore bien du chemin, qui n'est pas encore terminé aujourd'hui, arrive à cette gloire. Et alors on a Anne, je vais relever tout à l'heure, celle-ci survenant en ce même moment. Survenant, alors qu'il nous a dit juste avant qu'elle ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour. Bien sûr, le temple était relativement grand, et voilà, elle est au bon endroit, au bon moment, a-t-elle entendu les paroles de Siméon ? On peut le penser. Est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé des choses ? Ça ne nous est pas dit. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit ? Elle louait le Seigneur comme Siméon. Premier élan, premier mouvement, c'était bénir Dieu. Et puis, deuxième étape, parler de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. On a là une illustration de ce que dit Malachie. Ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Cette nouvelle qui a circulé parmi ceux qui attendaient la délivrance. Et alors, je voudrais aussi reprendre ce dernier verset de Luc qu'on a vu tout à l'heure. Quand Jean-Marc en parlait tout à l'heure, je me suis fait la réflexion qu'il y a quelque chose de particulier dans ce verset. On peut dire que c'est au fond l'aboutissement de ce qu'on vient de voir avec Siméon et Anne, pareil avec les bergers avant, pareil avec ceux qui ont assisté à la naissance de Jean le baptiseur. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Qui ils ? Les disciples. On le voit au début du livre des Actes. On le voit comment ils étaient là, à Jérusalem. Comment, après la Pentecôte, il nous est dit qu'ils rompaient le pain dans leur maison et qu'ils allaient au temple tous les jours. Au fond, on a un renversement dans le fonctionnement du temple. C'est ce peuple... J'utilise le mot peuple exprès, ce peuple de ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui au fond amenait et menait cette louange de Dieu dans le temple, comme un renversement, la sacrificature est presque mise en second rôle, en retrait. Alors que dans la loi, elle était mise en premier, c'était la sacrificature qui était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Là, il est parlé des disciples, continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. On voit bien sûr dans le livre des Actes comment la sacrificature, justement, goûte très peu à cela et va se rebiffer. Et c'est là on a la réalisation dans cette réaction, on peut vraiment appeler de réaction, de la sacrificature, ce que dit Siméon. Quand il utilise cette expression, qu'il sera un signe que l'on contredira, et plus loin, que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. Ceux qui ne voulaient pas entendre manifesteront ce refus, cette opposition. Mais là, on a, dans le temple, pendant ce temps, en tout cas dans le début de ce temps, on le voit encore plus loin dans le livre des Actes, quand Paul monte à Jérusalem, les chrétiens, allant dans le temple, louaient Dieu, louaient le Seigneur, en toute connaissance de cause, jusqu'à ce que le moment vienne où Dieu mette ce temple de côté. C'était un temps toléré pour Israël, pour venir, pour reconnaître. Et passé ce temps, le temple a été mis de côté. Et c'est l'Église, avec le culte, en esprit, en vérité, qui prend la place de ce qui était ce cadre matériel. Dans ce temps où l'Évangile s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, parmi les nations qui n'avaient aucune raison d'aller à Jérusalem. Mais là, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ce n'était plus un petit résidu caché, c'était l'ensemble des disciples où l'œuvre du Seigneur accomplie avait fait son chemin dans les cœurs, et amener publiquement à cette louange, à cette bénédiction, à cette adoration de Dieu.